BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Lorraine Boumeau.
Bienvenue dans Happy Boulot. Le programme de cet épisode, d'abord, c'est le digital marketing à la française. On sera avec le DRH de Solocal qui viendra nous expliquer sa stratégie d'implantation dans les territoires, mais aussi la compétition et la collaboration avec les GAFAM. Deuxième sujet, sans tabou, on va parler de la placardisation, de la mise au placard de 200 000 actifs. Voilà les estimations de Franck Morel, avocat, qui viendra nous aider à décrypter ce phénomène. Et puis, on aura aussi quelques réactions d'auditeurs, d'auditrices sur ce sujet, seniors, retraite, mais pas que seniors, vous allez voir. Et puis pour conclure, on parlera inévitablement de la Coupe du Monde, même si cette émission a été enregistrée avant la demi-finale et la finale, peut-être que vous nous écouterez après, eh bien, on essaiera de tirer quelques leçons managériales de notre équipe de foot nationale, esprit d'équipe, collaboration et travail.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'exécutif de la semaine.
Notre DRH de la semaine, c'est Jean-Charles Rebourg. Bonjour Jean-Charles.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes le directeur des ressources humaines de Solocal. Avec vous, on va parler de marketing digital à la française, puisque Solocal est une entreprise française spécialisée dans la pub, dans la com, dans le marketing numérique pour les entreprises local.
Absolument.
Alors, petit travail de définition, pourquoi c'est aussi important d'avoir local dans votre nom et par opposition à quoi ?
En fait, le mot local vient du fait que dans notre raison d'être en tant qu'entreprise, nous souhaitons connecter les entreprises locales à leur écosystème le plus proche. Et c'est ce que l'on fait à travers le marketing digital. On est leur partenaire privilégié en proximité avec eux pour vraiment les connecter à leur environnement économique et faire en sorte qu'ils puissent se développer grâce à nous.
Qu'est-ce que ça veut dire les problèmes d'hyperlocalité, de localité pour vos clients ? PME, TPE, plus grands groupes.
Mais en fait, on a fait une étude et on a constaté après le Covid que 89% des Français en fait déclaraient post-Covid vouloir consommer de façon plus locale. Donc ça renforce encore, je dirais, la vocation que l'on a à accompagner les TPE, PME, plus grandes enseignes sur le territoire pour se développer, encore une fois, dans leur environnement le plus proche.
Qu'est-ce que c'est local en termes de en nombre de kilomètres, en nombre de mètres ? Vous avez une définition, une mesure type chez Solocal ?
Non, alors on n'a pas ça parce qu'en fait chaque entreprise peut avoir sa définition du local en fait. Ce qui fait qu'on est en proximité avec eux, c'est qu'on connaît leur activité, on a une connaissance fine du territoire et en fait on est capable de les accompagner pour finalement dessiner avec eux au mieux le marketing dont ils auront besoin ou la publicité dont ils auront besoin pour trouver finalement être en résonance avec le potentiel de clients sur un territoire donné mais qui peut être plus ou moins grand. Effectivement, nous avons des entreprises qui rayonnent sur des régions entières, voire sur la France, et d'autres qui travaillent vraiment en hyper-localité. Donc on s'adapte aussi au business de chacune des entreprises, à l'activité de chacune des entreprises et au rayon d'activité qui est le plus pertinent pour elles.
On se tourne vers Solocal et par exemple vers les pages jaunes, puisque c'est une de vos marques iconiques. Avec quelle problématique particulière ? Pourquoi je vais vous voir vous plutôt qu'aller voir Google ?
Ok. Alors en fait, ce qu'on propose aux entreprises que l'on accompagne, c'est trois sortes de choses en fait. Hein. On leur propose d'abord de gérer leur présence sur Internet, ce que toutes les entreprises ne savent pas forcément faire. Et ça, on le fait avec des produits qu'on a développés nous dans l'entreprise et avec l'appui derrière de Page Jaune, qui est notre média, je dirais, le média dont nous sommes propriétaires et sur lequel on peut également les référencer et où on peut démultiplier leur audience. Ainsi que sur d'autres médias d'ailleurs. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on leur vend, c'est des sites. On fabrique des sites. On est la première entreprise française en termes de fabrication de sites. Et on a une web factory à Angoulême avec plus de 300 personnes qui produisent des sites pour les entreprises qui sont nos clients. Et puis la troisième chose que l'on vend, c'est de la publicité digitale. Permettre à ces entreprises finalement de se faire connaître à travers de la pub sur le web. Et là, on leur vend à la fois l'emplacement et les campagnes de pub les plus appropriées à leur activité. Et donc, ce qui fait qu'on vient nous voir, nous, parce qu'on est ce local et qu'on n'est pas une autre entreprise, c'est qu'on a cette connaissance, en fait, du territoire français et des activités qui sont faites sur ce territoire. On est capable de, pour un couvreur zingueur à Nice, de lui expliquer en quoi le choix des mots, le choix des activités qu'il va faire, avec lesquelles il va se présenter sur le web, va permettre de lui apporter de l'activité. Donc, et ça, on a cette qualification-là, aussi grâce à notre média page jaune, puisque sur le média page jaune, on a plus de 4 millions d'entreprises qui sont référencées.
Vous avez cité votre usine à site web du côté d'Angoulême. C'est un peu plus de 5000 sites qui sont créés par an. On vient enfin à votre job de DRH. Qui sont les gens que vous recrutez? Ça fait pas très longtemps que vous êtes là, on va dire. Non. Ça fait 6 mois. Quels sont les gens que vous êtes occupés à recruter ou à conserver, à maintenir dans l'entreprise depuis 6 mois? Des profils tech?
Oui.
Profils d'experts terrain qui...
Alors en fait, on est un groupe de 2700 personnes à peu près, donc on a tous les métiers qui peuvent être présents dans un groupe de cette taille-là. Les métiers, effectivement, qui sont les métiers, on va dire, cœur de l'activité, on a des commerciaux sur le terrain. On a recruté, sur une année glissante, on a recruté plus de 300 commerciaux partout en France. Des commerciaux qui vont développer notre activité, qui vont aller chercher de nouveaux clients. Et puis, on a aussi des commerciaux un peu plus anciens dans l'entreprise qui, eux, continuent à entretenir nos portefeuilles de clients déjà existants. On recrute également dans les domaines de l'IT et de la tech, puisque, en fait, chez ce local, nous concevons, nous produisons et nous commercialisons nos produits digitaux. Donc, dans les métiers de la tech, pour développer et concevoir nos produits, au niveau du marketing également. Et puis, si on prend l'exemple d'Angoulême, à la Web Factory, pour produire nos sites, eh bien là, c'est un métier qui... Pas de formation spécifique pour ces métiers, donc on recrute des personnes d'un peu tous horizons, mais qui ont ce goût pour l'internet, pour le digital, et on les forme en fait tout au long d'un parcours pour devenir web designer. Donc ça passe par on a évidemment une plateforme, nous, de maquette de site, et puis on travaille ensuite avec nos clients pour trouver, je dirais, le site qui sera le plus adapté à refléter leur identité, à ce qu'ils veulent montrer d'eux sur internet. On a des rédacteurs, les gens rédigent, mettent en ligne le site, et puis également sont en contact avec les clients pour s'assurer que le site qu'on leur fabrique, qui est personnalisé pour eux, répond bien à leurs besoins.
Vous maillez le territoire. On a parlé d'Angoulême, mais vous avez aussi ce que vous appelez des hubs à Boulogne-Billancourt, à côté de Paris, à Bordeaux, à Rennes, pardon. Mm-hmm. Vous avez aussi une vingtaine de centres d'affaires. Mm-hmm. Comment se porte la marque employeur de Solocal sur le territoire français?
Alors, en fait, c'est vrai qu'on a des collaborateurs qui sont présents sur l'ensemble du territoire français. Donc ça, je pense que nous sommes visibles. Les commerciaux, ça, c'est une bonne école d'être chez Solocal, puisqu'on a on se constate aussi que nos collaborateurs sont régulièrement chassés par l'extérieur. Donc, et en même temps, on a une image parfois qu'il faut aussi savoir entretenir, parce que comme tout collaborateur qui cherche un emploi, tout comme tout candidat, en tout cas, parfois on va voir sur Internet, et sur Internet, on a aussi parfois des retours de clients qui sont pas en général, les gens mécontents sont ceux qui s'expriment le plus fort. Donc il faut à la fois pouvoir effectivement valoriser nos atouts pour donner envie à des futurs candidats, futurs collaborateurs de nous rejoindre, et en s'appuyant sur nos produits et sur ce que peut leur proposer l'entreprise. Voilà. Donc on a une marque employeur. Page jaune est très connue, mais c'est pas notre aujourd'hui le produit que l'on vend.
Ça pèse en pourcentage d'effectifs sur l'ensemble des collaborateurs?
C'est difficile à dire, parce qu'il y a des produits qui sont en lien. On a une équipe effectivement dédiée à page jaune. On a à peu près 250 personnes qui sont vraiment dédiées à page jaune, mais ensuite,
10%.
Pour nos commerciaux, on a aussi des produits qui sont directement liés au fait que page jaune existe. Donc toute l'entreprise, j'exagère un peu, mais on a énormément de collaborateurs, dont nos commerciaux, qui sont en lien avec page jaune.
Jean-Charles, pour conclure, vous l'avez dit, Solocal, les pages jaunes, ce sont des marques, en tout cas des noms iconiques, quelles que soient les générations, on connaît. Comment on arrive à maintenir une image actuelle et dynamique d'un groupe qui est notamment associé encore dans l'imaginaire collectif au bottin papier?
Eh bien, en fait, aujourd'hui, le bottin papier, c'est iconique, comme vous le dites, mais il y a absolument plus de papier dans l'entreprise. On est vraiment une entreprise complètement digitale et l'ensemble des produits que l'on vend sont digitaux. Donc, toutes nos activités sont vraiment tournées sur le digital. Et je reprends l'exemple de la Web Factory à Angoulême. Effectivement, c'est un bon exemple. Quand on forme des gens à un nouveau métier, qu'on leur apprend finalement à développer des sites web, ce qui n'existe pas aujourd'hui en matière de formation en tant que telle, eh bien, ça permet vraiment de valoriser une image de marque, une image employeur dans le digital.
Est-ce que le jeune DRH que vous êtes dans cette entreprise sait quelle est la longévité moyenne de ses employés dans le groupe ?
Oui, alors on a une pyramide des âges qui est assez intéressante parce qu'on a en fait on a une pyramide qui est en forme de, je sais pas, ça à la télé ça
de
se voit,
sablier.
De sablier, exactement, merci. Donc on a des gens qui sont assez anciens dans l'entreprise, qui ont 15, 20, voire 30 ans parfois, et puis on a aussi beaucoup de jeunes embauchés qu'on a recrutés récemment, qui ont moins de 3 ans, moins de 4 ans d'ancienneté. Donc il faut que tout ça évidemment s'amalgame bien, ce qui est le cas d'ailleurs, et c'est un travail qu'on a à faire quand on intègre les nouveaux collaborateurs, c'est qu'ils s'intègrent dans cette entreprise qui a une culture forte et en même temps qu'ils apportent aussi toute leur fraîcheur, je dirais. Voilà, donc on a une moyenne d'âge qui est autour d'une dizaine d'années, mais avec une amplitude qui est assez importante.
Une moyenne d'âge professionnelle à l'intérieur de ce local de 10 ans. Vous me préparez le terrain pour notre prochain sujet. On va parler de la mise au placard et donc quelque part de l'égalité, de l'équité intergénérationnelle à l'intérieur des entreprises. Merci beaucoup Jean-Charles Rebourg, DRH de ce local, d'avoir ouvert cette émission avec nous et nous avoir parlé un petit peu de votre job.
Merci, bonne suite d'émission.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
Nous allons parler d'un sujet tabou dans cette deuxième partie de l'émission. On va parler de la mise au placard des salariés et on ne va pas parler que des vieux. Je le dis avec des mots un peu familiers parce qu'on va mettre les pieds dans le plat dans cette séquence avec Franck Morel. Bonjour Franck.
Bonjour.
Vous êtes avocat associé chez Flichy Granger Avocat. Avec nous pour parler de ce tabou français, peut-être oui. Pas que, mais en tout cas chez nous, dans les entreprises, on ne parle pas assez de ce phénomène de placardisation et vous l'avez mesuré.
Absolument. J'ai voulu mesurer ce phénomène parce que j'ai constaté, effectivement, en recherchant un certain nombre de données sur Internet, qu'il y avait très peu de données, quasiment pas, et que c'était un sujet dont on ne parlait pas. C'est un sujet dont on ne parle pas et pourtant qu'un certain nombre de personnes vivent. Alors d'abord, j'ai voulu le définir. C'est quoi être mise au placard, c'est quoi la placardisation? Et pour définir ce phénomène, j'ai trouvé 5 paramètres qui permettent d'identifier une telle situation. Le premier paramètre, bien évidemment, c'est une charge de travail quasi nulle. Le deuxième paramètre, c'est l'absence de sens des tâches qui sont données, des tâches inutiles. Le troisième, c'est un retrait du collectif de travail. Le quatrième, c'est une hiérarchie qui ne se préoccupe pas véritablement de l'intéressé. Et le cinquième, c'est en lien aussi avec le sens des tâches et l'objet des tâches qui sont données. Voilà. Et donc avec ces 5 paramètres, ces 5 critères, dans le cadre de la note que j'ai fait pour l'Institut Montaigne sur l'emploi des seniors, il y avait un sondage qui était fait par l'Institut Kantar pour essayer de mesurer le rapport au travail d'un certain nombre d'acteurs. Et on a glissé des questions. Et à travers ces questions, on a pu mesurer, évaluer le phénomène de la mise au placard. Alors les chiffres sont assez impressionnant, puisque le nombre de personnes qui résultent de cette enquête, que l'on pourrait qualifier de placardisée avec ces 5 critères, s'élève à 200 000 personnes.
200 000 actifs.
200 000 actifs, absolument. Et le coût induit pour l'économie française, c'est-à-dire pour les entreprises, pour l'ensemble de l'économie française, principalement fondée sur la rémunération de ces personnes, avec les charges sociales, mais aussi sur l'impact en termes d'arrêt maladie, notamment, ça dépasse 10 milliards. Ça dépasse 10 milliards d'euros par an. Donc c'est quelque chose d'assez énorme. Et donc voilà, une fois qu'on a dit ça, qu'on a posé ça sur la table, on se rend compte de l'ampleur du phénomène et de la nécessité d'en parler. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une première surprise, effectivement, dans l'étude, puisque j'ai fait cette démarche dans le cadre d'une étude sur l'emploi des seniors. Ça ne concerne pas que les seniors. Loin s'en faut. Ça concerne toutes les classes d'âge. Ça concerne toutes les classes d'âge et ça concerne tous les types d'entreprises et tous les niveaux d'emploi. Ça ne concerne pas que les cadres des grosses entreprises, pour dire les choses de manière un peu simpliste. C'est un phénomène assez large. Et la première réponse, à mon avis, qui me semble indispensable sur ce sujet, c'est déjà de briser le tabou.
C'est déjà de faire un petit peu.
Voilà, c'est ce que vous essayez de faire, c'est absolument, il faut briser le tabou, il faut ne pas avoir peur d'évoquer le sujet, de le nommer, et sans être, je dirais, une formule magique vers la solution, c'est déjà un début de progression vers la solution.
Quoi d'autre ? Est-ce qu'il y a une caisse à outils ?
Alors, il y a aussi, dans la caisse à outils, et là, ça concerne plus particulièrement les seniors, la nécessité de disposer d'outils pour gérer les fins de carrière. Une carrière, elle n'est pas forcément toujours ascendante. Elle peut, à un moment donné, plafonner, et on peut se poser la question, à un moment donné, de l'adéquation des compétences de l'intéressé par rapport à l'organisation. Eh bien, il faut des outils pour gérer ça. Alors, on a posé la question dans le sondage Kantar, il y avait 15% des personnes qui étaient prêtes, justement, en fin de carrière, à être sur un job un peu moins payé ou à temps partiel. Il y a Chance, qui est un organisme de bilan de compétences, qui a fait une enquête, qui a posé la question aux plus de 50 ans. Il y a 25% des plus de 50 ans qui sont prêts à être sur un job moins bien payé s'il est mieux en ligne, s'il est plus en ligne avec leurs valeurs, avec leurs préoccupations. Donc tout ça, effectivement, il faut le prendre en considération et il faut des outils. Alors je propose, entre autres choses, dans cette note sur l'emploi des seniors, la possibilité de signer des conventions de fin de carrière, des sortes de deals, si vous voulez, de deals avec l'intéressé pour dire, eh ben, on garde l'intéressé, on le met sur un autre job et on prend l'engagement de le garder un certain temps avec des compensations qui sont organisées.
Un CDD de fin de carrière.
Voilà, un système de fin de carrière, effectivement, permettant de garder l'intéressé en versant l'indemnité de licenciement, mais pour garder l'intéressé, et avec une compensation, effectivement, du coup, pour la baisse de rémunération qui peut en résulter. Voilà, un certain nombre de propositions qui peuvent être regardées, qui peuvent être analysées. Hein. On a aussi le temps partiel de fin de carrière, ouais, hein, qui peut être aussi une réponse dans ce type de situation.
Je vais vous soumettre une autre idée d'une auditrice. Ouais. Il s'agit de Delphine qui m'a écrit par email. Et elle développe une idée. Elle dit, et si on développait l'alternance pour les seniors, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de reculer l'âge de la retraite, etc. Mais quelque part, il faudrait un outil pour pouvoir faire ça. Est-ce que l'alternance pourrait être...
Alors, je ne sais pas si l'outil est l'alternance, mais ce qui est certain, c'est qu'on a un déficit d'accès à la formation pour les seniors. Et ça, il faut effectivement lutter contre ça. On est très en retard par rapport notamment aux pays nordiques, qui, comme souvent en matière sociale, sont assez exemplaires en la matière. Et le besoin de formation pour les seniors, c'est plutôt des formations lourdes de reconversion. Et donc, c'est quelque chose qui se prépare longtemps à l'avance. Et donc, il faut flécher un certain nombre de moyens assez massifs pour organiser ces formations lourdes de reconversion. C'est la raison pour laquelle, par exemple, dans la note que j'évoquais tout à l'heure, je propose de déplafonner le compte personnel de formation dès lors qu'on a un abondement pour les salariés au-delà d'un certain âge, précisément pour permettre l'accès à ces formations lourdes de reconversion. Donc, formation, 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 effectivement, pour les seniors, l'enjeu est essentiel.
Je vous cite Gilles Gâteau, le directeur de l'APEC, qui dit que les seniors sont une réserve de compétences pour les entreprises. Mais en même temps, je reprends Delphine, notre disque, qui nous dit « Tant que les mentalités ne changeront pas, on n'y arrivera pas ». Il n'y a pas un problème de vocabulaire avec ce mot « senior » dans lequel on met tout et un peu n'importe quoi. Je rappelle qu'au sens de Pôle emploi, on est senior à 45 ans. Est-ce que le premier travail, ce n'est pas un travail quelque part psychologique et d'arriver à donner d'autres mots que senior?
Oui, c'est un travail psychologique, effectivement. Je ne sais pas si c'est un travail uniquement fondé sur les mots. C'est surtout un travail qui est fondé sur la reconnaissance de l'apport des seniors à l'entreprise, à la société. Et puis, la bonne gestion des âges. Et puis, cesser de considérer qu'au-delà d'un certain âge, ce qui est le plus important, c'est de regarder de quelle manière on peut commencer à organiser le départ de l'intéressé. On a rompu. On a mis longtemps à le faire, mais on a rompu avec les systèmes de pré-retraite aidés. En 2011, a été supprimé le dernier système dans la loi de pré-retraite qui était encouragé fiscalement. On a rompu avec ça, mais il en reste encore quelque chose. Et donc, il est nécessaire de lutter contre ça, de favoriser l'emploi des seniors. Alors, le verre se remplit, puisque en 20 ans, le taux d'emploi des seniors en France, il a pris plus 20 points. Donc c'est plutôt bien. Le verre se remplit, mais si on compare ce verre aux autres pays européens, en revanche, on est en retard. Et on est en retard surtout sur la tranche la plus âgée, c'est-à-dire sur la tranche 60-65 ans. où là, on est à 33% à peu près de taux d'emploi. On est très en deçà de la moyenne européenne. Donc, il faut favoriser le maintien en emploi des seniors. Il faut avoir des outils pour ça. On a parlé de la formation. Il faut supprimer tous les systèmes qui peuvent exister de valorisation, de retrait précoce, effectivement, du marché du travail. Et notamment, dans les mécanismes d'assurance chômage, vous avez des systèmes qui peuvent avoir des effets un peu d'appel d'air, des effets pervers en ce sens. Voilà. Et donc, je crois que le succès aussi, la recherche du succès en matière d'emploi de seniors, c'est d'agir sur tous les leviers. C'est comme ça qu'on agira aussi sur la question des représentations, de l'aspect culturel. C'est on actionne tous les leviers. Le levier conditions de travail, le levier formation, le levier règles d'assurance chômage, le levier organisation du travail, etc. etc. Faut agir sur tous les leviers.
On est en pleine réforme des retraites, ou en tout cas tentative de réforme des retraites. Je précise qu'on enregistre mi-décembre 2022. Je voudrais vous faire réagir pour conclure sur un extrait du livre de Thierry Legrand qui a écrit « Réformer les retraites, une crispation française ». Il écrit dans son livre « Exiger toujours plus d'années de travail n'est pas compatible avec les pratiques des entreprises qui précipitent le départ des salariés seniors ». Les gens qui nous écoutent et qui nous regardent sont ces acteurs de l'entreprise. Qu'est-ce que l'avocat que vous êtes peut faire passer comme message pour conclure cette séquence ?
Mais je suis complètement d'accord avec cette affirmation. Du reste, quand vous regardez les courbes de rupture, rupture conventionnelle plus licenciement par âge, vous vous rendez compte qu'il existe un pic de rupture à 59 ans. Pourquoi ? Parce qu'on a notamment un mécanisme d'assurance chômage qui permet de rester indemnisé pendant 3 ans, puis ensuite pendant 5 ans de plus, jusqu'à avoir atteint ses droits complets à retraite. Et donc ça crée un appel d'air. Ça crée un appel d'air et ça crée une optimisation, un besoin d'optimisation de la part tant des entreprises que des salariés. Ça, il faut le changer. Il faut le changer en réformant le système pour éviter cet appel d'air et en donnant, à l'inverse, des incitations pour garder les intéressés. C'est pour ça, par exemple, que les conventions de fin de carrière peuvent être une telle incitation. Mais également des contrats spécifiques pour permettre d'embaucher les seniors. Moi, je pense qu'il faut rénover le CDD senior, par exemple. Le CDD senior est très peu utilisé, très sous-utilisé. Il faut le rénover, il faut le rendre beaucoup plus attractif avec des contrats de plus longue durée, potentiellement, avec des aides aussi à l'embauche qui pourraient exister.
Et voilà, le CDD senior, c'est peut-être un format qui aurait plu à un autre de nos auditeurs. Je vous cite Patrick, il a 55 ans, il est sans emploi depuis un an, il a 30 ans d'expérience dans la vente et le management, et il m'écrit « Je suis chasseur d'emploi, prêt à payer pour trouver un travail. » Il dit même « Pour l'entreprise qui me recrute en direct, j'offre 2 mois à l'essai gratuit pour démontrer mes compétences. » sur un CDI, même si c'est illégal. C'est un sujet qui vous fait beaucoup réagir. On traitera à nouveau ce thème, évidemment, qui est essentiel à notre économie. Merci beaucoup,
merci
Franck Morel. Je rappelle que vous êtes avocat associé chez Flichy Granger.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
À moins que vous viviez dans une grotte, vous êtes au courant que c'est la Coupe du Monde de football en ce moment. Alors, on va en parler et on va essayer de zoomer sur ce que le sport peut nous apporter en ce moment, comment s'inspirer de l'actualité. Pour faire ça, on accueille Camille Puech. Bonjour Camille.
Bonjour.
Vous êtes expert en qualité de vie au travail et vous êtes à la tête d'un cabinet qui s'appelle Cali Social. Alors non, ce n'est pas tiré par les cheveux parce qu'on peut s'inspirer du sport d'entreprise. Pas besoin d'un petit boulot pour le savoir. Mais je voudrais vous demander à chaud, je précise qu'on enregistre à la veille de la demi-finale de la France face au Maroc. Donc évidemment, quand vous nous écouterez, peut-être que cette demi-finale aura eu lieu. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme leçon managériale de notre équipe de foot 2022 ?
Ce qui est intéressant en fait dans cette équipe 2022, finalement, c'est pas tant l'équipe en elle-même, c'est surtout l'équipe après ce qui s'est passé. Et en fait, il y a toute une histoire de management qu'on vient de vivre, mais pas sur les 3 derniers mois, depuis 1998 en fait. Et il y a une boucle qui est en train de se boucler. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que ce qui se passe avec cette équipe de France, en fait, c'est ce qu'on retrouve dans la vie des entreprises. Moi, ce que j'adore dans le foot, c'est qu'en fait, on a une version simplifiée du monde du travail. Le monde du travail, c'est hyper complexe. Il y a énormément de facteurs, le marché, l'économie, etc. Et le management essaye de composer avec tout ça. Dans le monde du foot, il n'y a pas tout ça. Il y a 11 personnes sur le terrain. Il n'y en a pas 12, il n'y en a pas 10. Les règles, elles sont les mêmes. Elles ne changent pas. Et donc, la seule chose qui reste, c'est le management, c'est l'humain. Et on est vraiment une vision épurée de finalement ce qu'est le monde du travail. Et ce qu'on a connu Du coup, depuis 98, donc 25 ans, déjà, c'est Zinedine Zidane. C'est un leader incroyable qui a réussi à porter une équipe, mais tout un pays, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui est contre Zinedine Zidane, qui est parti.
Attendez qu'il change de fonction, peut-être.
Ouais. mais il est parti à un moment. Mais voilà, chaque chose a son temps. Il a été remplacé. Il s'est passé ce qui s'est passé avec Raymond Domenech. Avec une équipe qui n'avait pas à vivre, avec un effondrement social. C'est vraiment, on voit le pire de ce qui puisse se produire dans une dynamique humaine, avec 2010.
Crise managériale.
Crise managériale. Mais vraiment, on la voit, c'était assez flagrant, mais même c'était un super enseignement, parce qu'on a vu ça, en fait, et on a vécu tous un petit peu ce traumatisme de voir une équipe qui s'arrêtait, puis un manager un peu penaud qui arrivait pour lire aux journalistes ce que son équipe lui reprochait ou lui disait. Et puis, reconstruction lente. Et là, ça a mis du temps, mais il y a une phase un petit peu de stagnation, mais restructuration, je dirais. Et puis, depuis 2014, on découvre une équipe qui reconstruit sur des bases extrêmement simples, extrêmement saines. Et c'est ça qui est très intéressant, et surtout dans cette période, parce qu'on est dans une période de crise, hein, les entreprises sont dans une période de crise. C'est là que c'est riche d'enseignements. C'est quoi ? C'est le collectif prime sur l'individu. Pas d'ego, du travail, c'est de l'ambiance. L'ambiance est super important pour le sélectionneur Didier Deschamps, l'ambiance de ce collectif, que les gens se sentent bien, qu'ils ont envie de jouer ensemble, etc. Et donc on retrouve des choses de base, et en fait on s'aperçoit que ça fonctionne, ça prend du temps, ça fonctionne. Ils ne sélectionnent pas les meilleurs, ils créent une équipe qui doit travailler ensemble. Et puis les résultats sont au rendez-vous. Et donc c'est super intéressant parce qu'en période de crise, finalement, ce qu'il faut, c'est recentrer sur l'humain et faire confiance dans l'humain et faire du management, mais du management pas axé sur tu seras le meilleur, etc. Mais on va faire une belle équipe, on va faire une bonne ambiance. Et c'est ça l'enseignement.
Alors pour conclure, Didier Deschamps, c'est un bon gestionnaire ou un bon dirigeant ?
Ah non, c'est un bon dirigeant. Alors il est, je pense, bon gestionnaire et bon dirigeant à la fois parce que, somme toute, on voit qu'il est constant dans ses décisions. On a eu des situations Rabiot. C'est complexe à gérer un cas Rabiot. Quand vous avez une pépite, une star qui décide de faire un peu des siennes, tout le monde a ça dans son équipe. On est offusqué en tant que manager, en tant qu'humain. Lui, ce qu'il a fait, il a dit, bon, il se punit tout seul, tant pis pour lui, on attendra et puis on discutera quand on aura le temps de discuter. Et puis le temps est venu, il l'a réintégré.
Comme un salarié boomerang, il est
comme
revenu.
Un salarié boomerang, et puis ça se passe bien, c'est formidable. Et même chose avec Karim Benzema. Donc bon gestionnaire, et puis bon dirigeant, parce que pour le coup, tout le monde l'écoute.
Vous avez retenu quelques leçons, le collectif qui prime sur l'individu, pas d'ego, du travail, et puis attention à l'ambiance, peut-être que les fins d'année peuvent être propices pour justement améliorer un petit peu l'ambiance et le moral de ces équipes. Merci beaucoup Camille Puech, en 5 minutes on a pu avec vous tirer quelques leçons de cette Coupe du Monde, même pour ceux qui n'aiment pas le foot. Je rappelle que vous êtes PDG du cabinet Cali Social. C'est la fin de cet épisode, merci à toute l'équipe pour l'aide à la préparation, mais aussi à tous nos invités. Rendez-vous la semaine prochaine, d'ici là tous les épisodes d'Happy Boulot le Mag sont à retrouver sur les plateformes de podcast, sur notre site et notre application en vidéo à la demande et aussi en podcast. À la semaine prochaine.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.